Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Avec DH.
Okay?
Jordan et Mel Trudel.
I don't like it at all.
Radio X.
Bon, ça fait tellement longtemps qu'on vous en parle. Il est en studio. Roger Ferland, salut.
Salut, monsieur.
Sergent détective à la retraite et aussi collaborateur. Il y a beaucoup d'actualités, même si la période des fêtes s'en vient. D'habitude, les gros titres, monsieur Ferland, c'est les Hells Angels, ça a déjà été les Rock Machine, BFM. Là, on parle de jeunes cette semaine, ouais, entre 17 et 22 ans, qu'on arrête avec des armes à feu, qui ont tiré sur des résidences, puis même sur du monde. Est-ce que c'est du déjà vu, ça?
Ben, c'est en fait, c'est la relève qu'on est en train de voir. Beaucoup de jeunes, techniquement, ont envie de gravir certains échelons. Puis là, en ce moment, la disponibilité des armes à feu est assez grande. On n'avait jamais ça autant qu'on avait là, là. À chaque fois maintenant que je vous dirais qu'on fait une perquisition, que les policiers, que ce soit à Québec et Lévis, peu importe, ou dans la région, un peu partout, on l'a vu, la Sûreté du Québec, non seulement ils saisissent des stupéfiants, mais ils saisissent de l'argent, mais ils saisissent également des armes à feu ou des armes d'imitation. Ce qui n'était pas standard avant. Il y a été une grande période après la guerre des motards, je te dirais, il n'y en avait plus d'armes quasiment en circulation. Là, en ce moment, c'est un risque potentiel dans tous les jobs. Et ce qui fait en sorte que les jeunes, comme ils ont une facilité, très souvent, ben, prennent l'opportunité aussi de dire, tiens, j'aurais peut-être une façon de faire un gain rapide avec ça. Parce que on a déjà parlé un petit peu, il y a quasiment un Uber du crime en ce moment, là. Tu sais, tu peux à quasiment faire application pour dire, tiens, il y a un contrat ici, si je fais cette job-là, ça me donne le temps. Je l'essaye, exactement.
Qui fournit les armes? C'est-tu le crime organisé qui fournit les armes aux jeunes?
Généralement, oui. C'est quelqu'un qui est en relation avec eux. C'est un proche, généralement. On dit toujours, tu peux me faire confiance, mais c'est un proche à ces gens-là. Oui.
Les armes, on parle-tu, mettons, de Colt qui ont été achetées aux États-Unis ou des armes du marché noir ou des armes imprimées en 3D? Ça ressemble à quoi, à peu près, ce qu'on retrouve?
On a un petit peu de tout en ce moment. En ce moment, on sait que les armes 3D sont extrêmement faciles à dissimuler. Alors, dès que les policiers ont de l'information que quelqu'un en possède une ou qu'il y a une imprimante ou qu'il y a quelque chose qui sert à ce niveau-là, ils vont investir beaucoup d'enquêtes pour essayer de les ramasser tout de suite.
OK, mais les gens nous disent, des imprimantes, ça donne une arme à feu. Explique peut-être nous. Comment ça fonctionne, Roger?
C'est parce que tu
dis, imprimante, une arme à feu, t'as peu, là, je suis pas là.
J'ai été obligé de me renseigner, même moi, là-bas. C'est parce que tout n'est pas fabricable avec l'imprimante comme telle. Et imaginez que c'est à peu près comme un four à micro-ondes, genre, oui, que tu aurais à peu près, là, c'est une boîte cubique, là, mais que ça prend un programme pour le faire. Ça peut fabriquer n'importe quels objets. La seule chose, c'est que les gars sont capables d'acheter un programme, ils modifient le programme pour fabriquer des armes et ça va créer une réplique de ce que tu as besoin.
C'est comme un moule.
C'est un moule.
Qui réplique une arme à feu.
C'est ça. Ça va le concevoir à partir d'un certain plastique qu'ils vont utiliser. Okay. Ça va le faire fondre. Et ça prend quand même quelques heures à se faire, là. C'est pas instantané. Mais là, voyez-vous, là, ils ont modifié le code criminel pour dire, si tu achètes ces programmes-là, si tu modifies une imprimante 3D pour arriver à faire ça, c'est une infraction automatique. Le code criminel a été modifié. Alors, il y a des parties en ce moment qui ne sont pas capables de faire nécessairement pour que l'arme à feu soit durable. Pensons par exemple à le canon, les chargeurs. C'est des pièces qui vont être difficiles à acquérir. Alors, souvent, ils vont les acheter en lot auprès des compagnies.
En lot et en ligne?
Exactement, en ligne, encore là. Mais là, ça aussi, c'est surveillé beaucoup. Fait que on est capable de contrôler une partie de cette chose-là, je te dirais, quand même efficacement. Mais il y aura toujours une nouvelle personne qui va se brancher sur Internet et qui va réussir à en acquérir. Mais ça, c'est une priorité. Hein, parce que l'arme ne sera pas facilement décelable.
À pas avoir l'air de n'importe quoi.
À pas avoir l'air de n'importe quoi. Souvent, la forme n'est pas nécessairement parfaite. Il arrive à en faire des similaires. Mais elle peut avoir une autre forme, mais elle est conçue et elle est capable de tirer aussi après. Fait que c'est quand même un problème.
Puis ça tire quoi? Ça tire quand même assez, quasiment aussi fort qu'une arme à feu une régulière? Ou...
Ça va tirer aussi fort. Ça va tirer exactement le projectile que tu vas mettre dedans.
OK.
Fait que si tu mets des calibres 22, calibre 38 ou autre chose, ça va tirer ça. La seule affaire, c'est que souvent, l'arme n'a pas la capacité de les résister plusieurs fois. Au début, c'était très vrai. Là, c'est de moins en moins vrai. Ils sont capables d'en faire aussi, ils sont capables de résister plus d'une fois. Alors là, c'est une arme qui n'est pas détectable souvent par les détecteurs de métal, puis que tu peux dissimuler facilement, démontable. Fait que c'est un problème en ce moment. Mais je te dirais, ce n'est pas la grosse chose. N'importe quelle arme qu'on est capable de mettre la main en ce moment, des armes à feu, des armes de chasse, les gens les modifient, ou des armes de poing. Puis, c'est quand même mode pour les jeunes d'avoir ça dans les jeux, dans certains jeux vidéo. Alors, à quelque part, ils se pratiquent un petit peu dans leur tête à créer des chemins, mais après ça, il s'agit juste du rêve à la réalité, qu'on t'offre un arme dans les mains, puis là, tu l'essayes aussi pour vrai. Puis là, oui, temporairement, quand tu as un arme à feu dans les mains, tu as un petit sentiment de puissance. Mais sache qu'à partir du moment où tu te le mets dans les mains, tu viens de mettre les doigts dans un engrenage, généralement.
Ouais, tu peux devenir un criminel, là.
Ah, c'est clair, 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 c'est clair. Puis souvent, ceux qui vont te le donner, puis t'influencent, c'est ça qu'ils cherchent à faire.
Hier, on s'est mis à jaser parce qu'on se disait, en tant que parent, là, tu fais le ménage dans la chambre de ton fils, il y a 16 ans ou 17 mm-hmm. ans, là, des exemples concrets cette semaine, et tu vois une arme à feu.
Oui.
Qu'est-ce que tu conseilles aux parents de faire? Est-ce que tu appelles la police? Toi, tu disais ça hier.
Ben, moi, ça serait le réflexe numéro un, surtout si c'est une arme à feu. Il est certainement pas là pour aller à la chasse, comme on disait tantôt. Là.
Non, non, tout à fait, Louis. Puis moi, ça serait clair, moi, à ce niveau-là, c'est tolérance zéro. Il devrait y avoir même juste une boîte de balles où tu as quelque chose, tu as des armes à feu ou tu en as juste une. Tu sais, c'est le début. Tu n'as aucune raison d'avoir ça dans ta résidence.
Mais conseilles-tu... je sais que tu n'es pas un psychologue, là, Roger, mais tu conseilles d'en jaser ou de suite tu fais un appel à la police?
C'est une arme à feu, moi. En tout cas, entre vous et moi, comme parent, je ne jaserais pas.
Non.
T'sais, l'enfant a une arme à feu. Si ça ne tente pas de jaser, il va l'utiliser contre toi.
C'est parce que ça peut aller jusque-là. Mais généralement, le parent a un certain contrôle sur son enfant. Mais encore là, vois-tu, là, on tombe dans un autre concept, sans conseil qu'on dise, on n'ira pas trop loin en psychologie, mais il faut au moins donner mes notions que j'ai dit souvent à des parents, à commencer par appliquer une limite. Vous êtes chez vous, c'est dans votre maison, c'est votre résidence. Excusez-moi, là, vous avez le droit d'avoir accès à toutes vos chambres, puis c'est chez vous. Oui, mais je ne veux pas rentrer dans la chambre de mon enfant. Ben oui, c'est correct, mais c'est qui paye, c'est qui fait le ménage, c'est qui... Il y a une limite là-dedans dans le respect. C'est sûr que j'ai toujours donné du respect aux chambres de mes enfants, sauf qu'il y a une limite. Tu ne rentreras pas de stupéfiant dans la chambre là-bas, puis il y a des choses que tu feras quand tu auras un certain âge. Puis des armes à feu, c'est non. Mais à partir du moment où tu donnes une limite claire, sincèrement, ça rend les jeunes plus heureux quasiment d'avoir le sentiment qu'ils sont encadrés. Les gens que j'ai vus qui étaient les jeunes les plus, j'ai envie de dire, débiles, pour pas dire extravagants, c'est parce que les parents donnent pas de cadre. Ah, moi, je permets un peu tout, puis on va être libertin là-dedans. Ben, excuse-moi, c'est pas comme ça que tu rends tes enfants.
Un parent, c'est pas un ami, là.
Ben, c'est justement, c'est en plein ça. Il y a une limite, je pense, que tu dois donner. Mais à votre question de base, si je trouve un arme à feu dans la maison, puis qu'on n'a pas de permis de port d'armes, puis on n'est pas en train d'en faire une utilisation quelconque autre, là, qui va dans les chantiers pratiquer, excuse-moi, là, ça n'a pas d'affaire chez vous dans votre maison.
Parce que tu deviens, j'imagine, automatiquement un peu un complice. Mettons, tu laisses le gun à ton enfant.
Oui.
Ton enfant va commettre un crime. Après ça, les policiers, vous êtes capables de prouver que le parent le savait. Aussi coupable que le gars qui est allé tirer. Là.
Ben, du moins, il peut y avoir toute cette enquête-là que tu viens d'expliquer. Qui
non, mais
peut
sans le laisser,
non.
Tu le saisis et tu dis là, il n'aura pas, là, on là, va se mettre. Puis je vais prendre le gun et je vais aller le livrer à la police, je sais pas. Oui. Tu fais quoi? Tu vas livrer le gun à la police?
Oui, c'est ça. Ouais. Ben, oui, ça pourrait être une des actions qui pourrait se faire. Ça pourrait être aussi de dire on convoque les policiers directement à la maison puis tu leur remets directement. Puis là, qui vont permettre de rencontrer ton jeune.
Ben, oui.
J'ai déjà eu des cas, moi, d'une mère de famille qui m'est arrivée, qui me connaissait, qui est débarqué me voir à ma résidence personnelle. Elle m'attendait au coin de la rue. Quand j'ai sorti, j'ai dit bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Faut que je vous parle. Elle rouvre sa bourse, il y avait une arme à feu dedans. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'sais, c'était une dame de 60 ans. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, elle a dit, j'ai trouvé ça dans la chambre de mon gars. Puis tu veux faire quoi maintenant? Fait que là, j'ai pas manipulé l'arme, mais tout de suite, j'ai dit, parfait, je restais à ce moment-là sur la rive sud. J'ai dit, on va aller rencontrer les policiers en question, puis viens-t'en avec nous autres, là, tu sais. Puis la dame, elle l'a fait. Puis on trouve des moyens à ce moment-là pour avoir accès à ça. Je sais que c'est le parent qui est dénonciateur. Mais t'es dénonciateur, puis tu mets tes culottes de parents, ben non, tu risques d'avoir aussi, peut-être tantôt, une possible complicité si t'as la connaissance d'eux et que tu laisses faire.
Comment s'appelle l'infraction si tu t'arrives, tu livres une arme à feu qui était dans la chambre de ton enfant? S'il est mineur, il va quand même avoir des accusations, là?
Ben, si un parent fait ça, au départ, si l'arme à feu n'a pas servi ailleurs, puis que t'as un arme à feu qui serait remis comme ça, ça veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir une accusation. Parce que
on n'a pas le droit au port d'armes à la maison?
Non, on n'a pas le droit au port d'armes, mais il y a un principe, sans dire que ça soit ça. Pour la drogue, par exemple, c'est le principe du bon samaritain, que tu aides quelqu'un. On n'accusera pas quelqu'un, même si un junkie à côté regarde son chum mourir, puis qui appelle, même s'il y a foule de stupéfiants ces lieux, c'est la règle du bon samaritain, puis on va couvrir cette partie-là. L'arme à feu, c'est une infraction de la posséder, point à la ligne au départ. Sauf si tu as des permis qui te permettent d'en avoir un usage. Alors, c'est ça qui va être évalué sur le coup. Alors, si un parent arrivait et qu'il me remettrait un arme à feu au poste de police, déjà en partant, j'espère qu'il va le sortir discrètement au comptoir. Parce
il rentre
que...
avec le gun
derrière. Oui, non, là, tu sais, ça, ça va pas c'est pour bien. Ça. Fait que, sincèrement, si ça arrivait, ben la personne devrait s'annoncer, dire que je m'en viens, voici ce que je fais. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise, je le manipulerai même pas. Je demanderais aux policiers de venir sur place mm-hmm. et de faire les manipulations parce qu'il y a souvent, nous autres aussi, un principe qui va s'appliquer après ça, c'est la règle du 1 plus 1. Si tu as trouvé cette arme-là, ça se peut qu'il y ait d'autres objets illicites alentour qui vont te montrer que il y a peut-être plus que ça à côté, que ce soit des stupéfiants, une liste de comptabilité, nomme-moi tout ce qu'il peut y avoir. Ou,
qui, ça peut être une boîte à surprise. Si toi, ben, ça arme à feu, ça peut être une boîte. Ça peut être enfant est peut-être une boîte à surprise.
Vraiment. Moi, je pense que... C'est pour ça que... Je pense qu'on est là, faut que les gens voient les parents, faut que les gens voient les policiers comme un support. Puis on l'a vécu en ce moment, on le voit beaucoup. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés nouvelles qui arrivent avec nous. On essaie de les intégrer, mais la confiance n'est pas toujours là avec la police. Moi, je pense que si on confiance à la police, ils devraient dire, regardez, j'ai ce problème avec mon garçon, ma fille, puis souvent, ils ont plus d'un enfant, eux autres, là, contrairement à nous, là, tu sais, eux autres, on a arrêté à un, deux, des fois, là. Eux autres, ils en ont cinq, six, sept, c'est fréquent en ce moment. Alors, les parents sont occupés, travaillent fort, mais quand ils se rendent compte qu'il y en a un qui dérape, ils devraient tout de suite poser un geste puis demander un support des policiers, puis on va y aller à ce moment-là. Puis ça ne sera pas tout de suite... L'objectif n'est pas de faire une accusation. L'objectif, c'est de trouver une résolution au problème qu'on a face à nous. Puis là-dessus, Québec est assez bien outillé. Les villes font pareil aussi. Ils interviennent immédiatement, puis ça va être tolérance zéro. Mais ça prend une dénonciation.
Ces jeunes-là, là, sont certainement associés à un groupe organisé, là, d'être du crime organisé. C'est-tu un gang de rue, selon toi, Roger? Si c'est oui, il y en a combien de gangs de rue à Lévis et à Québec?
C'est très difficile de documenter ça de façon aussi précise que ça. C'est toujours un phénomène d'association entre chums et entre boys au début. Tu sais, les jeunes d'un quartier vont se tenir ensemble à un moment donné un petit peu à cause de musique, sport ou agglomération du parc, peu importe. Il y a quelque chose qui les attire dans un secteur. Est-ce que c'est nécessairement un gang de rue? C'est la gang de ce quartier-là. Moi, je regarde quand j'étais jeune dans Beauce, on se tenait, ben, il y avait la gang du village, il y avait la gang du domaine, mais c'est à cause de... Mais quand on arrivait à l'école, on se concentrait à l'école puis on était ensemble. Fait que si on avait eu un combat contre un autre village lors d'une game de hockey, ben là, c'était la gang du village un tel contre l'autre, tu sais. Est-ce que c'était des gangs de rue? Ben, c'était une association par regroupement d'amis sur certains thèmes. Par contre, là-dedans, après ça, il y en a toujours des gens qui cherchent à gagner les influences des autres. Ça, c'est la partie qu'on a comme difficile. La violence, en ce moment, ça a les gens ont quand même un pouvoir là-dessus. Alors, si tu montres que t'es le hot, t'es celui qui intimide, t'es celui qui peut avoir faire tort aux autres, et qui, parce que t'as fait ça, a gagné des sous, t'as de l'argent de plus dans tes poches, là, tu deviens un peu plus un king. Alors là, tu vas l'enseigner à d'autres un peu après. C'est pour ça qu'avant qu'ils deviennent... Moi, j'ai envie de te dire, Danny, arrêtons de laisser pousser en gang. T'as de quoi tout de suite au début, on devrait intervenir dès les premiers signes d'un jeune qui commence à avoir envie de prendre le chemin criminel, ben tu devrais tout de suite intervenir.
On s'entend que c'est pas trop long, là. Quand il y a une gang qui disparaît, il y en a un autre qui peut se tirer dans le temps de le dire. Là.
Oui, parce que voyez-vous, en ce moment, tout le monde nous parle de la nouvelle gang émergente, les BFM sont en train de se dissoudre par eux-mêmes un peu.
Disons il y a Arab Power qui fait jaser un peu.
L'Arab Power fait jaser, mais toute la gang qu'Al Boivin a récupérée encore, qui sont encore là, ils demandent de fidéliser les jeunes, là, tu sais. Fait que t'embarques dans l'autre gang. Fait que finalement, t'es comme anti-Hells ou tu travailles pour la machine des Hells. Et très souvent, je te dirais, c'est pas une fidélité à pu finir, là. C'est souvent une occasion d'opportunité. On a notre stock, il vient d'un tel. Ben, tant que personne nous écœure, on roule avec ça, puis on en découle. C'est pour ça que j'ai envie de te dire plus... Il faut que tu vois ton affaire, il faut que tu vois tes jeunes, ce qui est là, puis laissons-les pas grossir. Moi, j'aime autant plus attendre de dire, OK, il y a vraiment un logo, il existe, il y a un territoire, tout ça. C'est très, 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 très difficile de définir ce qu'est qu'un gang. Puis on l'a vu, SPVM l'a essayé, Québec, on l'a fait par moment, mais d'avoir tous les critères officiels, oublions ça. J'ai envie de te dire, t'as deux, trois jeunes tannants, occupe-toi-en donc.
Toi, quand t'étais enquêteur, est-ce que t'as eu à discuter avec des jeunes qui faisaient partie des gangs criminalisés, des gangs de rue?
Oui, fréquemment.
Bon, comment on s'y prend pour qu'ils s'ouvrent à nous? Comment t'as réussi à sortir de l'information pertinente qui t'a aidé à faire avancer des enquêtes?
Bien, premièrement, c'est de prendre contact avec eux, de prendre le temps de leur parler. Première affaire. Faut arrêter de démystifier, faut arrêter de créer cette barrière-là. Puis, très vite, après ça, une fois que t'as commencé à y parler... fais-y comprendre très vite qu'il y a des avantages et des inconvénients à faire ce qu'il fait là. Temporairement, il pense qu'il gagne de quoi, mais très rapidement, il y a plus d'inconvénients qui vont apparaître que d'avantages. Puis ça, il faut que tu y fasses refléter. Fait que très souvent, moi, ça m'est arrivé des fois, le jour 1, je parle avec quelqu'un, ben j'y fais quasiment comme une boule de cristal. Là. J'y dis son avenir qui va arriver. Il dit non, 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 ça arrivera pas, c'est pas moi, mes chums, l'autre, c'est arrivé. OK, parfait, c'est beau. Mais là, j'y lis au complet. Je prends le temps d'y expliquer. Qu'est-ce qui risque de se passer avec lui s'il commence à mettre son doigt dans l'engrenage? Et des fois, il se passe 2 semaines, 3 semaines, et souvent, c'est même eux qui nous rappellent ou qui nous disent « Hey, il faudrait que je te reparle. Oh. J'ai eu des problèmes. J'ai telle affaire. Ce que tu m'avais dit est arrivé. Tel chum que je trouvais bien loyal l'a pas été. Le gars m'avait dit qu'il me donnerait 5 000 $. Il m'a juste donné 500 $ finalement, puis il n'a jamais payé la job. » Fait que là, tu te rends compte que le milieu n'est pas fidèle. Le milieu n'est pas comme ça. C'est un milieu d'opportunité. Mais je pense que c'est à nous de faire des approches. C'est à nous de sensibiliser pour que les gens comprennent que c'est peut-être pas la façon de faire en ce moment. Mais c'est pour ça... On s'entend, il faut qu'on débarque de nos autos, faut qu'on aille leur parler, faut qu'on aille assez de personnel.
Faut qu'il y ait un contact.
Faut qu'il y ait un contact. C'est clair, clair, clair là-dessus. Puis, très souvent, j'ai envie de te dire, allons le faire en milieu scolaire ou dans les milieux où ce qu'on sait qu'on a encore un certain impact sur eux. Parce que quand ils sont dehors en gang, je peux te dire, ils n'ont pas envie de parler beaucoup aux policiers et de dire bonjour. Mais sauf s'il y en a un ou deux qui te connaît, là, tu es capable d'y parler. Puis c'est pour ça que le milieu scolaire est une place d'approche facile, évidente, mais que tu es obligé de leur dire voici la conséquence réelle qui s'en vient. J'ai bien aimé qu'en ce moment, on ait un jeune qui raconte sur le web, là, exactement, sur YouTube, que de quelle façon il est allé mettre le feu à une place. Il n'était pas très habile. Il a raté son incendie cocktail Molotov pour faire de l'extorsion avec le groupe des Arab Power, qui était justement. Mais il a passé au feu, le petit gars. Il est brûlé sur plusieurs pourcentages de son corps. C'est le fun que ça soit lui qui vienne le redire à d'autres jeunes.
Avant de s'embarquer dans Instagram.
Sur Instagram puis TikTok. C'est lui qui l'a dit lui-même, là, tu sais. Puis oui, ça a l'air, OK, ben lui, ça a mal viré, il était mal habile. Attends un peu 2 secondes, là. Il n'y a personne qui te donne le gun, qui te donne le cours pour aller avec, comment manipuler ça, comment fabriquer un cocktail Molotov, même si tu me dis qu'en ce moment, tu l'apprends sur Internet, là. Je peux te dire, moi, là, je me suis brûlé avec de l'essence, j'ai eu des difficultés avec ça, puis pourtant, j'étais fils de garagiste, là, tu sais. J'ai été élevé avec ça, on avait des choses, mais il y a des moments où ce que tu ouvres, tu ne penses pas l'inflammabilité, les risques que ça représente, ton récipient dans lequel tu l'as mis, t'as-tu efficace, t'sais. Fait que je recommence. Je ne suis pas là pour lui donner des cours, mais il n'y a personne qui leur en donne. On leur dit juste, si tu réussis, prouve-moi-le, envoie-moi la photo, on va te payer. Au début, ils disent qu'ils payent bien. Avec le temps, je ne suis pas sûr que c'est aussi payant que ce qu'ils racontent.
Mais c'est ça qui est fréquent, c'est que souvent, les données sont sur Internet. Fait que voici comment c'est ça fonctionne, ça finit là. Puis après ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis je connais des gens qui travaillent en centre jeunesse, qu'aussitôt que le jeune va sortir du centre jeunesse, déjà, il l'était un peu de base, mais il va commencer tranquillement. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est l'âge du 11, 12 ans, 13 ans. Ça commence donc bien jeune. Puis avant, on entendait parler du 15-16, mais... Dans le 11 ans, c'est assez surprenant. Là.
Tout à fait. Avant, c'était une exception quand on avait quelqu'un de, je te dirais, en bas de 12 ans, parce qu'en bas de 12 ans, on ne peut pas les accuser aux criminels. C'était des exceptions. Vraiment, j'en avais eu une couple dans ma carrière. Il était en 5e, 6e année. Là. Petit gars qui avait essayé de faire des moves, mais très, très malhabile dans sa façon de faire. Et très vite, on peut intervenir puis leur guider sur le droit chemin. On est un peu comme des tuteurs à ce moment-là. Dirais, tu pousses tout croche. Là. Mm-hmm. Voici les conséquences qui t'attendent. Puis si tu continues, on va t'avoir sur notre chemin. On use sa dernière chance souvent en écrivant quand même un rapport au tribunal de la jeunesse ou à la DDPJ. Tu fais quand même une dénonciation. Mais vois-tu, juste ça, ça demande du temps, il faut que tu le fasses. Mais tu uses sa dernière chance. C'est ce que le tribunal va toujours permettre la première fois. On veut que les jeunes se réhabilitent. Mais la prochaine, ça va être la bonne. Fait que fais-en plus de gaffe, mon chum. Mais là, de plus en plus, on a des jeunes.
Il nous reste 2 minutes et demie. Je veux t'entendre sur un champion du jour. Qui s'appelle Jean Lessard, qui a soufflé à la place de la conductrice dans son éthylomètre. Et quelques kilomètres plus tard, elle s'est tuée.
Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est pas tombé encore le verdict. Là,
non, il est passé en cours aujourd'hui, mais j'ai pas, pas la ça, résultante là. De tout ça. Mais la femme est protégée là, par la cour concernant son nom et tout ça.
C'est ça. C'est tout un manque de jugement pareil. Là.
C'est un très gros manque de jugement.
Est-ce qu'on va punir sévèrement? Est-ce qu'on va passer le message, tu crois?
Ben, on n'est pas encore capable de le condamner parce qu'il y a tout le lien de causalité qu'il va falloir qu'il arrive à établir. Là.
Okay.
Est-ce qu'il y avait un écart marqué ou important? C'est souvent les termes qu'ils vont essayer de redéfinir à la cour. Entre quand le gars il a pris la décision de dire hey, « t'es pas capable de partir avec ton véhicule, ma championne, ben je vais souffler à ta place. » Okay. Il ne devait pas penser qu'il y avait une caméra sur le tableau de bord. Il ne va pas penser qu'il se ferait identifier. Il ne va pas penser qu'on le reconnaîtra un jour. Mais la technologie des équipements que la SAAC fournit quand ils te fournissent un éthylomètre est rendue plus grande parce que les autres aussi se sont fait avoir à plusieurs endroits.
Tu as maintenant des caméras, c'est ça? Oui, oui. Qui sont reliées avec la SAAC?
C'est ça, qui va communiquer directement, en fait, je ne saurais pas te dire si c'est en temps réel, mais selon moi, oui, ils sont capables d'être en temps réel.
C'est indiqué, moi, ce que j'ai lu, c'était marqué temps réel.
En temps réel, bon, ça me semble fitter. C'est nouveau comme technologie, mais il fallait qu'ils s'assurent que quand on donne le privilège d'avoir un appareil d'éthylomètre dans ton véhicule, que ce soit bien toi qui l'utilise. Oui. Fait que là, ils ont mis des moyens de contrôle pour se faire, mais le gars s'est fait prendre par des moyens de contrôle. Là, maintenant, il reste à savoir, est-ce que c'est lui directement qui est responsable de la mort de la dame? Est-ce qu'elle lui-même était en boisson? La dame était dans quel état? Il s'est fait torturer pour le faire? Ben non, il l'a fait volontairement, okay. Puis il a offert, comprends-tu?
Ouais.
Là, je vais laisser le travail aux amis avocats de faire leur boulot. Mais c'est vraiment un gros manque de jugement parce que déjà, on avait mis des moyens de contrôle pour empêcher cette dame-là, qui avait déjà un problème de consommation, de prendre son véhicule. Ben là, le gars vient de se mettre dans un autre trouble. Puis en plus, il a la responsabilité morale de savoir que cette femme-là est décédée maintenant. Puis c'est à cause de son geste. Elle n'aurait pas pu partir avec son auto, là. Elle aurait dû partir à pied ou en taxi.
Non, il y avait eu des tests dans la soirée. Je pense qu'à 2-3 reprises, elle avait essayé de partir son véhicule.
Ben oui, puis ça fonctionnait pas, là. Ouais. Fait que j'imagine qu'à la dernière tentative, 2 fois la limite, ça devait être croche sur un méchant temps.
Ben oui, c'est assez évident. Puis je peux vous dire, on en parle souvent de l'alcool, mais je peux vous dire, quand t'es 2 fois à la limite, là, on parle plus comme on jase là, puis notre attitude n'est pas en même qu'elle est là du tout. Là. C'est beaucoup d'alcool de consommer dans un court laps de temps pour arriver à ces taux-là. Là.
Roger Ferland, merci beaucoup. On te réinvite bientôt.
Bonne journée à vous.
OK, bye. Bye.
Le retour de Radio X.
418-670-9098.
Radio X.